Bonjour à tous. Pour commencer, simplement pour une pensée qui m'est revenue tout à l'heure. Ce pain auquel nous avons participé, ce pain auquel nous avons communié, quel est-il? C'est un pain de vie. Jésus se déclare lui-même être le pain de vie. Une chose intéressante, c'est que Jésus est né à Bethléem, qui veut dire la maison du pain. Et en Jésus, toutes choses sont parfaites et accomplies. Le mot Bethléem et le mot parfait ou accompli en hébreu, tamim, ont comme valeur numérale ou numérique, 490. Jusque-là, c'est pas très intéressant. Mais à quel pain, finalement, du coup, le Seigneur nous demande, jour après jour, de nous nourrir? Qu'est-ce que lui a fait en tant que pain brisé? Il a été brisé afin que nous soyons pardonnés. Combien de fois devons-nous pardonner jour après jour? Chaque jour, 7 fois 70. Et combien font 7 fois 70? 490. Si nous voulons être parfaits et accomplis, si nous voulons habiter en Christ, et Christ en nous, notre lot quotidien est donc de vivre le pardon à outrance, je devrais dire, tous les jours. Et ma nourriture doit être de pardonner plus que nécessaire. Car je ne sais pas si on a tous pardonné 490 fois par jour. Je ne pense pas que nos plus anciens soient même arrivés peut-être à 400 en une journée. Voilà, c'était un petit aparté. Un petit aparté sur ce pain auquel nous communions. Ce pain de vie, ce pain qui est pour nous, ce pain qui demeure. Si nous demeurons dans sa parole, si nous demeurons dans ses commandements, si nous demeurons en lui, c'est un pain qui demeure en nous. Et quand nous communions ensemble, ce pain nous rappelle combien le pardon doit être au centre de nos vies. Sur cette base, nous allons voir aussi quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas forcément ce que j'avais prévu initialement, ne serait-ce que pour le début, mais nous allons voir un homme. L'histoire de cet homme vient juste avant une parabole qui nous a été un petit peu racontée au micro par Jérémie tout à l'heure. C'est pour ça que c'est très rigolo. Je me l'étais noté peut-être d'aller plus loin. Finalement, je n'irai pas plus loin. J'ai laissé du coup Jérémie faire ce travail. Dans Luc 19, nous lisons l'histoire d'un homme qui s'appelle Zachée. Et Zachée, finalement, chef des publicains, collecteur d'impôts, était vu clairement comme un homme de mauvaise vie. Cet homme avait comme particularité, finalement, du coup, de s'allier avec l'envahisseur et s'enrichir sur le dos de ses compatriotes en étant allié avec l'envahisseur. Finalement, Zachée, c'est un peu nous tous, car nous avons tous, à un moment donné, pactisé avec l'envahisseur. Mais quel est cet envahisseur? L'envahisseur, c'est l'ennemi de nos âmes. L'envahisseur, c'est celui qui rentrait dans le jardin pour tenter. L'envahisseur, c'est celui qui veut détruire. C'est celui qui veut prouver à Dieu que finalement, Dieu avait tort de nous confier la mission d'être celle et lumière, de régner avec lui, etc., etc. Et au final, c'est celui qui sera jugé à la fin. Il est déjà jugé et il sera définitivement condamné à la fin. Donc Zachée, c'est un petit peu l'un d'entre nous. Mais Zachée va vivre quelque chose de particulier. Zachée, dans son cœur, déjà quelque chose boue. Dans le secret de son intérieur, le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit a déjà mis en route quelque chose d'intéressant. Si bien que lorsque Zachée entend que Jésus est là, il court pour le voir. Il monte sur un arbre. L'histoire, on la connaît bien. Jésus le voit et lui dit « Viens, il faut que j'aille manger chez toi. Descends, il faut que j'aille manger chez toi. » Finalement, c'est une invitation que le Seigneur nous a faite également. Chose intéressante, Zachée emmène Jésus manger chez lui. Les gens regardent ça d'un œil très, très curieux. Mais Jésus, lui, c'est pas ça qui l'intéresse. Jésus, ce qui l'intéresse, c'est que Zachée puisse manifester ce qui est entré dans sa vie. Et il le dit, finalement, du coup, il dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » C'est beaucoup plus que ce qu'il devait faire selon la loi pour réparer un tort. C'est beaucoup plus. Finalement, on est touché par ce « beaucoup plus ». Ce beaucoup plus, finalement, c'est le fait d'être rempli par la grâce. Et cette grâce qui coule. À un moment donné, Zachée a été touché par la grâce. Et cette grâce coule. Et Jésus dit cette phrase, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Jésus, il est le salut. Et en tant que salut, en tant que sauveur, il est rentré dans cette maison. Est-ce que Zachée avait déjà commencé à pratiquer ce qu'il est en train de dire? Peut-être. Souvent, on interprète en disant « Zachée dit qu'il va le faire ». Ce n'est pas ça le plus important que j'aimerais vous parler, en tout cas là. Parce que quand le Seigneur touche les cœurs, c'est toujours dans le secret. Et ce n'est pas forcément, du coup, au moment où, ça y est, Jésus est entré, et c'est le moment où nos cœurs ont été touchés. Parfois, nos cœurs ont été touchés avant. Et nous avons déjà commencé à marcher dans un chemin de repentance avant. Mais au moment où Jésus rentre, quelque chose de complètement en fait différent vient saisir la personne. Le salut rentre dans sa maison. Et du coup, je vais poser cette question. Est-ce que le salut est une affaire individuelle? Est-ce que le salut est une affaire individuelle? Le salut commence souvent par un individu. On pourrait même dire, souvent toujours, on dirait. Ce sont des mots que je mets un peu les uns avec les autres. La phrase n'a plus aucun sens. Mais est-ce que le salut est une affaire individuelle? Et quand elle l'est, quelles sont les conséquences? Alors oui, le salut est une affaire individuelle. Car il faut que, je crois, mais que se passe-t-il? Nous pouvons lire dans Actes 16 l'histoire d'une femme qui s'appelle Lydie. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Déjà, cette femme craignait Dieu. C'est-à-dire qu'elle mettait déjà en pratique des œuvres de justice. C'est ce que ça veut dire, craindre Dieu. Ça veut dire choisir de faire certaines choses plutôt que d'autres, parce que je crois que celui qui a donné la capacité de faire certaines choses nous permet de les vivre différemment. Je vous donne un exemple. Mentir ou dire la vérité. Si je dis la vérité, je crains Dieu. Pourquoi ? Parce que le simple fait de préférer la vérité au mensonge a des conséquences bénéfiques dans ma vie, et je crois que celui qui a instauré ces principes me permettra d'en bénéficier en termes de conséquences. Parfois, nous craignons Dieu d'une manière parfois insoupçonnée. Nous n'avons pas encore la révélation de Dieu, mais nous craignons déjà Dieu dans ses principes. Mais cette femme, elle, craignait Dieu, c'est ce qui est écrit. On ne sait pas de quelle manière précisément, mais on suppose que ça se voyait dans des actions de justice. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle lui était baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, rentrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Ce qu'on peut voir ici, c'est que finalement, elle a cru, le Seigneur lui a ouvert le cœur, et la conséquence, c'est que sa famille a été baptisée. Rien ne nous dit si sa famille a cru. Sa famille a été baptisée. Ce que l'on voit, c'est que le salut est entré dans la maison. Et nous lisons plus loin une autre histoire, celle d'un geôlier. Au verset 29. Alors le geôlier, c'était un geôlier alors que Paul et Silas étaient en prison. Et eux priaient, chantaient les louanges de Dieu. Tout à coup, tout s'est écroulé. Les prisonniers sont partis et le geôlier s'est dit « ça y est, je suis fichu ». C'est pour ça qu'ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dire « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. La base, c'est lui, c'est sa foi. Ce qu'on remarque, c'est que dans nos familles aujourd'hui occidentales, nous ne fonctionnons pas tout à fait pareil que la façon dont les personnes vivaient à l'époque. Ce que le père de famille, ce que la tête, ce que le père ou la mère faisaient, les autres suivaient dans la famille. Et là, nous, ce que nous voyons, c'est que le salut rentre dans la maison. Si aujourd'hui, je me dis que mes enfants, mes frères, mes sœurs, ma femme, mon époux, doivent chacun individuellement faire une démarche personnelle, j'ai raison. Mais ai-je vu que par ma foi, le salut était rentré dans ma maison? Et quelles en sont les conséquences? Ces histoires viennent nous confronter un petit peu parfois dans nos principes. C'est fou quand même. Lydie a cru, sa famille a été baptisée. Le geôlier a cru et il fut baptisé avec sa famille. Que se passe-t-il quand le salut rentre dans la maison? Pour aller plus loin, j'aimerais prendre une petite image que j'ai trouvée sur Internet. Je l'ai traduite parce qu'elle était en anglais, mais on va la prendre ensemble. C'est une petite image qui montre quelque chose d'intéressant. Cette image a même une légende. Elle montre finalement du coup tous les jours de la semaine. Et elle dit, pas ça, mais ça. Crée une vie à laquelle tu n'as pas besoin d'échapper. On pourrait se dire, mais serait-ce finalement une belle phrase pour nous encourager à ne plus subir notre train-train quotidien des 5 jours du lundi au vendredi? Qu'est-ce que ça veut dire, la vie? C'est-à-dire que finalement, du coup, je subis ma vie pour profiter le week-end. Alors que la bonne réponse, selon ce modèle, c'est justement, en fait, du coup, de vivre pleinement ma vie tous les jours, la semaine et le week-end. Créer une vie à laquelle tu n'as pas besoin d'échapper. Pourquoi est-ce que cette image m'a interpellé? Parce que souvent, je fais du salut pour ma propre vie un échappatoire. Parfois, alors que c'est compliqué la semaine, j'ai qu'une hâte, c'est d'être le week-end pour me reposer. Parfois, je me dis, c'est peut-être là où je pourrais aussi lire un peu plus ma Bible, voir un peu plus mes amis, voir mes frères et sœurs en Christ. On pourrait dire même que le schéma de gauche n'est pas tout à fait juste dans certaines vies de chrétiens et où je peux moi aussi m'y retrouver. Parfois, la notion de vie n'est que sur le dimanche. Et tous les autres jours, finalement, sont des jours où je subis. Si nous passons sur la slide suivante, ça c'est ce que j'ai rajouté. Finalement, si ma vie, je décide de la vivre d'une certaine manière pour ne pas avoir y échapper, le Seigneur me demande de la vivre comme un étranger voyageur sur la terre. Pourquoi j'ai mis une image de cathédrale ? Parce que globalement, en moyenne, pour construire une cathédrale, il faut 235 ans. 235 ans, c'est l'équivalent de 9 générations. Quelle est la perspective de ma vie? Est-ce qu'elle est que pour moi? Quand le salut rentre dans ma maison, est-ce qu'il n'est que pour moi? Et si le salut a du mal à rentrer parfois dans ma maison, parce que je le rends inatteignable pour les autres de ma famille, comment est-ce que finalement, du coup, je peux construire une cathédrale avec ma famille? 9 générations. Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est déjà 3 générations. Ce que les personnes avant nous ont laissé, ce sont des choses qu'elles n'ont même pas vues. Elles ont construit, elles ont participé à une construction dont elles n'ont même pas vu la finalité. Et certaines cathédrales ont mis plus de 600 ans avant de finir d'être construites. Qu'est-ce que je construis avec ma vie ? Est-ce que je construis une belle statue ou à la fin je veux qu'il y ait un bel épitaphe sur ma tombe? Ou est-ce que je suis prêt à sacrifier ma vie pour qu'elle figure sur la liste d'innombrables noms qui ont participé à une construction qui me dépasse? Voyons ensuite la slide suivante. Une autre image trouvée sur Internet. Celui qui aime marcher ira plus loin que celui qui aime la destination. Si le salut est ma destination, pourquoi continuer alors? C'est une question que j'ai posée au Seigneur. Seigneur, si je suis sauvé, pourquoi tu ne me prends pas directement? C'est pour que je souffre encore un petit peu? C'est pour que je sois patient? C'est bon, tu m'as sauvé, c'est bon, maintenant on peut y aller. Si c'est plus beau avec toi, en toi, dans ton paradis, pourquoi rester ici? Par la foi, les yeux fixés sur le royaume qui vient. C'est ce que j'ai rajouté. Nous avons ici une peinture de, je crois que c'est Lebrun, du XVIIIe siècle, qui représente la lapidation, le martyr d'Étienne. Et nous voyons au-dessus, alors ils ont tout mis ensemble dans la même image, on sait que c'est deux étapes séparées entre la lapidation et la vision qu'il a eue avant, lorsqu'il était au tribunal. Mais nous voyons Christ en gloire, à la droite de Dieu, et Étienne qui est sur le point de perdre la vie. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Quelle est ma perspective? Est-ce que j'ai trop peur de perdre ma vie? Parfois, quand je lis la vie de certaines personnes qui ont marqué l'histoire, et notamment l'histoire chrétienne, ces personnes sont décédées à 20 ans, 30 ans, avant 40. Jésus en tête de proue même. Mais d'autres aussi. Je pense par exemple à Blaise Pascal, éminent philosophe, mathématicien de renom. Aujourd'hui encore, tout son travail est étudié en profondeur. Les gens ne comprennent pas la profondeur de sa sagesse. Les philosophes athées s'arrachent les pensées de Blaise Pascal. Et cet homme est mort, il avait une trentaine d'années. D'un point de vue humain, parfois on peut se dire, mais c'est pas grand-chose. Mais si même ceux qui ne connaissent pas Dieu reconnaissent une sagesse particulière dans ces personnes, quel est l'impact de nos vies? Le mystère que nous avons à vivre, c'est d'investir sur cette terre, non pas pour la terre, mais pour le ciel. Nous n'investissons pas pour nous-mêmes, nous investissons dans ce qui est impérissable. Les êtres humains sont impérissables. Ce sont nos récompenses quand nous serons au ciel. Si nous investissons dans les gens, nous les retrouverons, peut-être. Mais il y a de grandes chances que oui. Peut-être pas tous. Et peut-être que nous en retrouverons même beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et peut-être que ceux qu'on était certains, et bien finalement peut-être que pas du tout. Mais je pense qu'il y a une plus grande grâce en Dieu que dans ma conception de Dieu. Dieu aime plus les gens que moi je ne les aime. C'est les paroles d'un sage qui est au fond de l'église. Moi, ça m'a marqué cette phrase. Dieu aime plus les gens que moi je ne les aime. Et quand je pense les aimer déjà au maximum, voilà, j'ai fait un truc de fou, j'ai fait le max. Le Seigneur, il nous dit un peu plus. Combien de fois est-ce que je dois pardonner par jour? Vous savez ce que dit Étienne au moment où on le lapide? Seigneur, pardonne-leur. Ne leur impute pas ce péché. Et pour la petite parenthèse aussi historique, un autre aussi a dit ça. Alors qu'il allait se faire guillotiner, c'était Louis XVI. Il a dit, je prie que mon sang versé ne retombe pas sur les Français. Parfois, dans nos actions, nous ne voyons pas à quel point, finalement, du coup, le pardon doit être au centre de nos vies. Est-ce que j'aime marcher ou est-ce que j'aime la destination ? Et surtout, quelle est ma destination ? Joseph reconnaît sûrement cette peinture. Mon petit frère l'a reçue pour son baptême. Et elle représente la porte. Nous pouvons y voir des linteaux couverts de sang qui se déversent, mais qui se déversent en abondance. Sur ces linteaux en bois, couverts d'or à l'intérieur et à l'extérieur, des ramifications aussi verdoyantes. La vie pousse dessus avec des petites fleurs. Dans ce sang qui coule, nous retrouvons toutes les couleurs, toutes les nations, toutes les races, tous les peuples, toutes les langues, toutes les tribus. Cette porte est ouverte. À l'intérieur, nous y voyons des vagues, un souffle, de l'eau. Et des points blancs qui représentent finalement les colombes, la paix. Qu'est-ce que ça représente? Il faut que nous naissions de nouveau. Mais comment puis-je le faire? Est-ce que cela veut dire que je dois rentrer dans le sein de ma mère à nouveau? Tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses? Que devons-nous faire? Pour voir et pour entrer dans le royaume, Jésus dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut naître à nouveau pour voir. Il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer. Est-ce que j'attends que la mort me délivre pour qu'enfin je puisse rentrer? Ou est-ce que dès maintenant je peux rentrer? Et si je peux rentrer, qu'est-ce que ça veut dire? quand le Seigneur se révèle à nous, quand il touche nos vies, nous voyons son royaume. Quand nous ouvrons la parole, nous découvrons tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il va faire, nous voyons déjà son royaume. Quand nos vies changent, où nous avions du mal à pardonner, d'un seul coup, en fait, le pardon devient un peu plus facile, nous voyons déjà son royaume. Mais comment faire pour y rentrer ? J'ai besoin de l'eau de la parole, cette eau fraîche. J'ai besoin de la parole de Dieu, révélée par son esprit. J'ai besoin que cette parole devienne vivante pour moi, afin que ce que je puisse appliquer change ma vie, ma famille et tous ceux autour de moi. Ce royaume n'est pas uniquement un royaume qui vient avec fracas. Ce royaume commence à l'intérieur de moi. Est-ce que Christ est roi dans ma vie ? C'est une question que je me pose souvent et parfois, je vais jusqu'au bout de la pensée et souvent, je demande pardon au Seigneur. Parce que dans bien des domaines, le Seigneur n'est pas encore tout à fait Seigneur. Et quelqu'un a dit cette phrase, c'est « Si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. » Eh bien, pardon Seigneur. Prends pitié de moi, Seigneur. J'ai besoin que le Seigneur me révèle les clés, la façon de gérer, comment son royaume fonctionne. Vous vous rendez compte, Abraham rencontre un homme extraordinaire, Melchisédek, et tout à coup, alors qu'il découvre finalement du coup un Dieu très haut, encore plus haut que sa pensée qu'il avait de Dieu, il découvre quelque chose d'extraordinaire. Que fait-il ? Il donne la dîme de tout ce qu'il possède. Est-ce que Melchisédek lui a demandé de donner la dîme ? Est-ce qu'il fallait donner la dîme ? Est-ce que c'est écrit quelque part juste avant ? Qu'est-ce que Abraham a vu ? Qu'est-ce qu'Abraham a eu comme révélation du fonctionnement de Dieu pour avoir cette action-là ? Dans nos vies, nous sommes encore avec des pactes, parfois un peu malgré nous, avec l'envahisseur. Et nous avons besoin que le Seigneur nous révèle dans sa grâce, dans sa justice, dans son amour, ce qui est droit selon son cœur. Le Seigneur n'est pas venu que pour sauver. Il est venu pour sauver. Mais il est venu pour donner la vie. Une fois que tu es sauvé, que fais-tu ? Est-ce que ta vie s'arrête ? Une fois que je suis sauvé, est-ce que ma vie s'arrête ? Nous lisons. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Le salut et le règne. Le salut marche avec le règne. Le règne n'est pas que pour plus tard. Le règne sera pleinement plus tard. Mais quelle est la différence entre un chrétien et un autre qui vit dans ce monde ? Si ce n'est que le royaume est déjà en lui, si tant est qu'il accepte de vivre une transformation sur la base de révélations de fonctionnement de Dieu. Et si nous évitons des grands passages dans le Lévitique, parce que finalement c'est un peu compliqué, finalement il y a beaucoup de sang quand même, puis on ne comprend pas tout. Comment pouvons-nous comprendre finalement du coup les principes de justice de Dieu ? De quoi avons-nous été sauvés finalement ? Et qu'est-ce que Christ a accompli ? Nous avons besoin de sonder les Écritures pour y trouver finalement ce dans quoi le Seigneur nous a placés. Le salut et le règne qui fonctionnent ensemble. J'ai combien de passages ? J'ai à peu près 20 passages bibliques, mais je ne suis pas sûr qu'on va tous les lire. Mais si vous voulez, les noter, Romains 5, verset 10, à lire avec 2 Timothée 2, versets 11 et 12. Quoi, je vais quand même le faire celui-ci, au moins celui-ci. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Et dans Timothée, cette parole est certaine. Deux points. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Au final, il y a cette promesse. C'est par la foi que nous pouvons être sauvés. Et c'est par la foi que nous régnerons. Mais quelle est notre part aujourd'hui pour régner ? Comment puis-je régner ? Le modèle que Christ a eu, comme dirait un petit enfant dans les années 70, une petite vidéo très, très charmante, il dit, mais le Seigneur Jésus, il n'est pas venu en disant « adorez-moi, adorez-moi ». Non, il est venu simplement comme serviteur. Le grand roi, le grand Dieu, celui qui règne de toute éternité, il est venu comme serviteur. Si je veux régner, je dois servir, je dois aimer, je dois être au service de l'autre. Est-ce que je dois uniquement servir ceux qui m'aiment ? Est-ce que Christ s'est donné uniquement pour ceux qui l'aiment ? Là, on arrive sur un point doctrinal. Sommes-nous calvinistes ? Sommes-nous de l'autre branche arminianiste ? Sommes-nous... Dieu s'est donné pour tous, et tous ont la liberté de croire. Je vais faire la liste des versets, pour ensuite terminer. 2 Corinthiens 5, verset 21, à lire avec 1 Corinthiens 15, verset 28. 1 Pierre 2, verset 5, à lire avec Apocalypse 5, verset 10. Galates 3, verset 29, à lire avec Jérémie 30, verset 9 et Matthieu 1, verset 1. Jean 3, verset 17, à lire avec Daniel 7, verset 14. Romains 5, verset 8, à lire avec Marc 16, verset 19. Colossiens 1, verset 12 à 14, à lire avec Luc 17, verset 21 et Colossiens 1, verset 26 et 27. Jean 1, verset 29, à lire avec Apocalypse 5, verset 5. Et Colossiens 2, verset 12 à 14, et Galates 2, verset 20, à lire avec Éphésiens 2, verset 5 et 6. Et j'arrive sur ma dernière slide. Pourquoi tous ces versets ? Parce que l'évangile du salut, à travers tous les versets qu'on va pouvoir lire, vous pourrez lire tranquillement à la maison, il y en a quand même pas mal, je pourrais les redonner, vous pourrez réécouter aussi. L'évangile du salut me réconcilie avec lui, me justifie, fait de nous des prêtres, de la postérité d'Abraham, avec Christ comme sauveur, par la mort de Jésus, nous amenant dans le royaume où Christ est l'agneau et où je suis crucifié avec lui. C'est vrai. Mais ça ne s'arrête pas là. Et si je m'arrête là, eh bien je serai comme ce petit bonhomme, on peut revenir juste comme ce petit bonhomme sur la route qui a fait du salut sa destination. Et on peut revenir sur la porte, on peut revenir sur l'image de la porte, au lieu d'en faire un accès. Est-ce que le salut est ma destination ou est-ce que le salut est ma porte d'entrée? Et reprenons la dernière slide. L'évangile du royaume nous fait régner avec lui. Soumet toute chose à Christ. Fait de nous des rois de la lignée de David, avec Christ comme Seigneur et roi, par l'intronisation de Jésus, amenant le royaume en nous, où Christ est le lion et où je suis ressuscité avec lui. J'ai besoin que les deux facettes soient réconciliées dans ma vie. Si je ne suis que dans l'évangile du salut, je n'ai plus qu'à m'asseoir sur une chaise et attendre l'enlèvement. Si je ne suis que dans l'évangile du royaume, je vais croire peut-être que c'est par mes propres forces que le royaume de Dieu va venir. Alors que si je sais que tout est par grâce et que moi-même ayant été sauvé, je peux participer à la royauté de Christ, mais de quelle gloire est-ce que je vais me glorifier si ce n'est que Christ m'a donné sa vie et que je suis en lui et qu'il vit en moi. Mes qualités, mes dons, comme l'a dit Jérémie, tout ce petit peu, comme ça a été dit, ce petit peu que j'ai reçu. De quoi est-ce que je vais me glorifier? Et si ça porte du fruit, vais-je me glorifier? Mais si j'ai perdu de vue la notion du royaume, finalement, pourquoi est-ce que je suis encore là sur cette terre? On ne dira pas il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. D'autres traductions disent il est au-dedans de vous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes un temple, mais nous sommes aussi des petits temples qui ne sont pas dissociés du grand temple que nous formons. Si moi, à titre individuel, je n'ai pas conscience de ce que je porte, comment est-ce que je peux accueillir les personnes qui viennent à moi? Je terminerai sur ce point. Le tabernacle était composé de trois parties. Où est mon parvis? Trois parties, Saint des Saints, lieu saint et le parvis. L'image du temple, et en fait je pense que je vais prendre cette image, on va voir si j'y pense, pardon. Je ne sais pas si vous voyez en fait du coup sur cette image. C'est le tabernacle de Moïse. Vous avez vu le parvis comme il est grand? Le parvis, c'est tout l'espace vide à l'intérieur de la tente. Pardon, à l'intérieur du périmètre. Sous la tente, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Vous avez vu l'espace comme il est grand, l'espace du parvis? Est-ce que mon parvis est aussi grand? Est-ce que j'ai conscience que le Seigneur m'envoie des personnes qui vont sacrifier des mauvaises habitudes, des mauvais fonctionnements, leur propre injustice, leur propre péché, en venant près de moi? Ils vont sacrifier comment? Ils ne vont pas sacrifier en prenant un animal et en lui donnant la mort. Ils vont sacrifier en se repentant, en arrêtant de faire ce qu'ils font. Vont-ils forcément reconnaître Dieu? Oui, il faut que je me repente car Dieu est Dieu et Jésus m'a sauvé. Pas forcément. Mais ils vont reconnaître que ce qu'ils font ne convient pas. Est-ce que c'est parce que nous, on aura bien parlé? Pas forcément. Parce que le Saint-Esprit aura peut-être déjà agi avant même qu'il vienne nous voir. Et quand ils viendront, serais-je prêtre pour les accueillir afin de leur permettre de changer? Vais-je leur donner la bonne façon de vivre? Ou est-ce que moi-même, je peine un peu à savoir comment vivre ma vie dans la justice, dans tous les domaines de la société, que la société finalement du coup me propose de vivre? Est-ce que je veux vivre finalement du coup une vie un peu palpitante le dimanche, pourquoi pas le samedi, et trimer toute la semaine juste pour me payer un abonnement Netflix? Ou est-ce qu'au final, en fait, ce que je veux vivre, c'est ça? Est-ce que je veux vivre finalement, du coup, cette tente qui se balade? Car dans le désert, la tente était mobile, elle se baladait. Et partout où cette tente allait, le peuple allait. Si Christ vient en nous, Seigneur, marche, et moi je marcherai avec toi. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel, a dit Dieu dans la bouche de Josué. C'est Dieu qui parlait. Moi et ma famille, Dieu et sa famille serviront l'Éternel. Est-ce que nous nous associons aussi à cette parole? Le Seigneur nous donne cette promesse qu'il habite en nous et que nous sommes avec lui dans les lieux célestes. Par la foi, parce que nous ne voyons pas de nos propres yeux. Nous avons besoin d'ouvrir nos yeux intérieurs, les yeux de nos cœurs. Pas par nous-mêmes. Qui peut le faire? Mais Seigneur, et c'est une prière de Paul, je ne sais plus dans quelle lettre, de nous ouvrir les yeux de nos cœurs. On a besoin, pour prendre l'image avec l'agneau et le lion, Philippe, je te laisse prendre la slide. On a besoin d'être réconciliés dans ces deux notions. Il est l'agneau de Dieu qui est venu pour le péché du monde. Et il est également le lion de la tribu de Juda qui vient pour juger et régner. Si aujourd'hui j'accepte d'être déjà jugé, de me soumettre au jugement de Dieu, aujourd'hui, en reconnaissant mes torts, en reconnaissant mes fautes, je suis donc déjà sauvé. Et je suis sauvé en espérance pour le jour du jugement. Et son règne peut déjà commencer aujourd'hui en moi. Ne pensez pas que nous saurons tous, en un clin d'œil, toutes les sagesses qu'il nous faut savoir pour finalement mener une vie parfaitement aligné selon le plan de Dieu. Demandons à ceux qui ont plus de 60 ans dans cette salle combien de temps ça a pris d'en être là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie avec le Seigneur. tout ce que vous avez compris, combien de temps ça a pris? Le Seigneur est patient, mais il attend simplement des fils et des filles qui veulent marcher avec lui. Non pas simplement pour être sauvés, ça c'est évident que oui, mais pour vivre le royaume, pour que ma famille soit un lieu de réjouissance, pour que mon travail soit aussi un lieu de bénédiction. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas vivre des difficultés, des persécutions. Sur la dernière slide, s'il te plaît. Ma perspective doit être, je veux construire une cathédrale que je ne verrai peut-être même pas. Je veux miser sur l'idée que 9 générations après pourront me poursuivre dans la tâche. Si le Seigneur revient au bout de la 2e ou 3e génération sur ces 9, gloire à Dieu, ça lui appartient. Mais ma perspective doit être de marcher pour les générations qui suivent, parce que je suis au bénéfice de tout ce que les générations d'avant ont pu donner de leur vie. Et ne jamais oublier finalement que même ma vie peut être prise à tout moment, parce que peut-être je serai persécuté, peut-être je vais vivre finalement du coup des choses très difficiles, au point même d'en perdre la vie. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un confort. L'espérance de vie est très longue dans notre société aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais quand bien même, certains vivent très longtemps, dans les temps de martyrs et de persécutions, d'autres sont morts très jeunes. Parmi les 12 disciples de Jésus, les 12 apôtres, il y en a un qui est resté en vie très 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 longtemps, c'est Jean. Tous les autres sont morts dans d'atroces souffrances. Aujourd'hui, leur témoignage perdure. Nous sommes les héritiers de ce qu'ils ont donné. La cathédrale qu'ils ont construite ou ont participé à construire est une cathédrale qui les dépasse. Et au final, nous sommes tous participants d'une plus grande cathédrale encore, qui n'est pas faite d'une main d'homme. C'est cette Jérusalem céleste. C'est cette épouse. Est-ce que vous vous rappelez de Bethléem, sa valeur numérale, numérique? C'est également la valeur numérique pour la femme vertueuse et aussi pour la reine. L'épouse qui se prépare pour être une reine, pour régner avec Christ. Finalement, c'est en lui que nous sommes parfaits, accomplis. Lui qui est ce pain de vie. Lui qui nous nourrit jour après jour, par ce qu'il est, par sa parole. Si je me fie uniquement à mes sens, je suis sûr de tomber. Mais si je cherche à tout prix à demeurer en Christ, à rester ferme, par la foi, à être prêt aussi à tout moment à me défendre contre ceux qui viennent m'accuser, qui me font des faux témoignages, alors j'ai besoin de ne pas uniquement me reposer que sur mes sens. J'ai besoin d'avoir une vision spirituelle. Dans les temps qui viennent, nos yeux charnels seront travaillés, défiés. Serons-nous comme Élisée ou comme son serviteur? Une armée est arrivée. Élisée était calme, tranquille. Prophète Élisée dans l'Ancien Testament, calme, tranquille. Son serviteur était en panique. Il lui dit, mais tu ne te rends pas compte Il y a toute une armée qui vient vers toi, qui va nous détruire, mais finalement, Nous ne sommes que deux, nous sommes peut-être, allez, 3, 4, peut-être 24 si on fait les fonds de tiroir. Et tu ne paniques pas. Et là, il lui dit, ouvre les yeux. Il dit, il prie au Seigneur, il dit, ouvre les yeux de mon serviteur. Et là, il voit une armée céleste sur tout l'horizon. Une armée céleste sur tout l'horizon. Qu'est-ce que nos yeux physiques ne voient pas qui existe dans le monde spirituel? Nous avons besoin de nous rappeler, en lisant la parole, combien Dieu est fidèle, et d'aller creuser dans la parole tous les principes de justice qu'il a donnés. Je vais terminer par la prière. Seigneur Jésus, tu es Dieu de toute éternité. Merci pour ta venue sur terre. Merci pour ta venue sur terre. Merci parce que tu as prêché le royaume. Cette bonne nouvelle du royaume, d'un fonctionnement différent, d'une vie différente qui se manifeste miraculeusement, de manière parfois très pratique dans nos vies et de manière complètement surnaturelle. Seigneur, tu es cette échelle de Jacob, où les anges montent et descendent entre le ciel et la terre. Seigneur, tu nous fais habiter en toi, et toi, tu vis en nous. Seigneur, aide-nous à pouvoir incarner et manifester ton royaume. Que nous puissions être pleinement des prêtres, des sacrificateurs, et pleinement des rois, des reines. Seigneur, fais-nous grâce. Nous avons encore besoin de ta sagesse. Tu as dit que, à travers l'apôtre Jacques, que ceux qui manquent de sagesse, qu'ils te demandent, Seigneur. Et que tu ne refuserais pas. Seigneur, nous te demandons ta sagesse. Pour nous individuellement, mais aussi en tant qu'Église. Seigneur, nous voulons vivre pour des projets qui nous dépassent, pour des projets qui sont au-delà de nos vies, plus grands que nous. Mets les yeux fixés sur toi, car notre royaume n'est pas de ce monde. Amen. Les versets, on les donnera si vous le souhaitez. Le tableau sera aussi diffusé sur le site internet avec la prédication. Je vous encourage, moi ça m'a fait beaucoup de bien en tout cas, de prendre tous ces versets et de les mettre un peu en comparaison. Et de les mettre surtout en fait du coup avec un « et ». On les réunit ensemble, on les réconcilie ces versets pour une vision complète. Soyez bénis, le Seigneur est vivant. Il règne pour l'éternité.